Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Carnet de région, l'actualité de la semaine en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée avec vos radios associatives. Et sans plus tarder, le sommaire. Bientôt des policiers équipés de caméras piétons et ceci pour plus de sécurité. Ce sera l'occasion d'en parler. Ce mois de mars marque le mois du mars bleu, un mois consacré à la sensibilisation du dépistage du cancer colorectal. Il en sera question avec nos amis de RCF, de Radio Aviva, pardon. Ce week-end marque la grande collecte nationale des Restos du Cœur. Le président de l'Hérault sera notre micro et sera dans ce carnet de région avec François Charbonnel. Des militants écologistes à la façon zadiste se battent actuellement contre un projet de construction d'un transformateur électrique situé près de Saint-Affrique. Les précisions de nos confrères de Radio Pays d'Hérault. Et en cette fin de magazine et en ces temps perturbés, quoi de mieux que de parler de musique et de la musique pour la paix avec le top départ pour le festival interreligieux de musique sacrée. Bienvenue, c'est le carnet de région. Les policiers municipaux de l'Hérault seront équipés bientôt de caméras piétons et ceci d'ici quelques semaines. Une bonne mesure selon Jean-Michel Weiss, secrétaire général de la Fédération autonome de police municipale de l'Hérault et du Gard.
Alors ces caméras piétons répondent à une demande des policiers municipaux. L'expérimentation a été effectuée par nos collègues de la police et de la gendarmerie nationale et les résultats obtenus par ces deux services de l'État sont plutôt concluants. Les policiers municipaux, pendant 18 mois, ont pu tester l'utilisation de ce type de caméra. Pourquoi nous demandons la mise en place de ces caméras? Parce qu'il a été démontré, il a été prouvé que le fait que les policiers soient dotés de ce type d'équipement permet d'éviter des comportements déviants des usagers à l'égard des représentants des forces de l'ordre que sont également les policiers municipaux. Avec une caméra piéton, on est moins souvent agressé, moins souvent insulté et moins souvent pris à partie par les usagers.
Alors ça va être mis en place dans l'ensemble de l'Hérault?
Alors ça va être mis en place dans toutes les communes qui en sont déjà dotées. Je vais vous donner comme exemple Vendargue, mais également Sète. Ces collectivités sont déjà équipées de caméras piétons, mais c'est également le cas à Vias. Ces caméras n'étaient pas utilisables sur la voie publique parce qu'il n'y avait pas de texte réglementaire. Aujourd'hui, on va pouvoir les utiliser à nouveau. Il faut quand même remplir un certain nombre de conditions, respecter les obligations prévues par le décret, mais également être habilité, autorisé par le préfet à les porter. Donc il faudra un petit peu de temps encore, mais on va dire que dans quelques semaines, les premières caméras vont pouvoir être à nouveau portées. Je vous donne l'exemple de la Grande Motte. La Grande Motte a acheté 10 caméras piétons. Nous attendons l'autorisation du préfet pour pouvoir les utiliser. Et je crois savoir que la ville de Montpellier également souhaite doter ses agents de ce type de matériel.
Donc ça va être utilisé simplement sur la voie publique?
C'est forcément utilisé sur la voie publique. L'objectif étant de protéger et d'enregistrer les interventions, les contrôles effectués par les policiers sur la voie publique.
Elles vont être aussi utilisées lors des manifestations des Gilets jaunes les samedis?
Alors, les policiers municipaux sont normalement pas engagés sur les manifestations des Gilets jaunes, les manifestations des Gilets jaunes étant une compétence pure du préfet, de l'État, puisqu'on est sur des manifestations d'ordre public. Je rappelle que les policiers municipaux ne sont pas habilités à effectuer des opérations de maintien de l'ordre, donc les policiers municipaux sur Montpellier sont quasiment pas engagés ou peu engagés, et s'ils le sont, ils sont sur des missions connexes de régulation de circulation, de fermeture des voies par exemple. Les caméras ne sont pas là non plus pour pallier à un jet de pavé, on est bien d'accord. Les caméras ne protègent pas de ce type d'agression physique, et en tout cas pas des violences urbaines. La caméra piéton est intéressante lorsque on vient contrôler un automobiliste qui a commis une infraction au code de la route par exemple, lorsque le ton monte, lorsque le policier enclenche la caméra et informe l'usager ou le contrevenant qu'il est en train de filmer, il apparaît que le comportement de la personne est moins déviant et en tout cas le policier n'est pas insulté, n'est pas pris à partie lorsqu'il enregistre, parce que ça servira bien entendu de preuve à l'enquête et de preuve au procureur de la République si demain on en avait besoin.
Le mois de mars, c'est Mars Bleu, un mois consacré à la sensibilisation du dépistage du cancer colorectal. Le cancer colorectal ou cancer du colorectum touche chaque année près de 45 000 personnes en France. Il est responsable également de près de 18 000 décès par an. Afin de sensibiliser le grand public, le CRDC Occitanie propose des rencontres dans le département. À cette occasion, Perla Danan n'a pas manqué de donner la parole au docteur Jean-Loup Chapert, qui est médecin responsable du site Hérault.
On a 90% de guérison à 5 ans lorsqu'on détecte tôt un cancer colorectal. Et par contre, s'il est diagnostiqué à un stade tardif, au stade de métastase, c'est-à-dire lorsqu'il y a des localisations secondaires du cancer dans un autre organe, on n'en guérit plus que 13% à 5 ans. Donc il y a un vrai enjeu à se faire détecter pour avoir des chances de survie et pour avoir un traitement moins agressif pendant le traitement. C'est environ 45 000 nouveaux cas par an en France, avec 18 000 décès. C'est le troisième cancer chez l'homme après la prostate et le poumon, et c'est le deuxième cancer de la femme après le sein. Une vraie importance de santé publique avec un enjeu de réduire la mortalité liée à ce cancer, et c'est l'intérêt du dépistage. C'est totalement indolore, c'est extrêmement simple. Il suffit d'attendre l'invitation que vous recevez de notre centre à venir consulter à votre médecin. Vous prenez rendez-vous chez le médecin, vous allez chez lui. Il vérifie que vous faites partie de la catégorie à risque moyen. C'est à peu près 80% de la classe d'âge des 50-74 ans. Bien sûr, il faut avoir 50-74 ans. Et si vous êtes éligible, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'antécédents familiaux ou pas d'antécédents personnels de cancer qui vous placerait dans une catégorie où on aurait une prise en charge très particulière, il va vous proposer le kit, il va vous le donner, il est gratuit. D'accord. Et vous le réalisez chez vous, de manière très simple, en une seule fois, puisque l'ancien test, il fallait faire trois prélèvements sur trois selles différentes. Là, c'est un seul prélèvement sur une seule selle. Vous grattez un petit peu la selle, vous mettez dans un petit tube et ensuite dans une enveloppe, un emballage, il y a un double emballage et ça part directement au laboratoire, par la poste, avec une enveloppe prépayée qui est gratuite. Après 74 ans, c'est un bénéfice-risque une évaluation bénéfice-risque qui va être menée par votre médecin traitant pour voir si effectivement vous devez bénéficier d'un test ou d'un suivi particulier par rapport à l'état de santé finalement de la personne. Est-ce que c'est bénéfique? Le principe chaque année, c'est de faire d'avoir une campagne nationale qui est relayée dans tous les départements. Cette campagne est organisée par l'INCa, l'Institut du Cancer, et dans chaque département, on la relaie. Donc nous, dans l'Hérault, on est organisé dans un collectif qu'on appelle collectif bleu, avec l'Institut du Cancer, avec la Ligue contre le cancer, avec l'assurance maladie, l'ARS, le CHU, la ville de Montpellier, Hérosport et d'autres associations, et on prévoit toute une série d'activités qui vont faire la promotion du dépistage du cancer.
Pour retrouver le programme des animations de Mars Bleu, rendez-vous sur la page www.dépistage34.com. Je répète, le www.dépistage34.com. Les Restos du Cœur organisent leur grande collecte nationale, une collecte qui est organisée dans le même temps que le concert des Enfoirés qui se passera ce samedi sur TF1. Chaque année, plus de 100 000 tonnes de marchandises sont récoltées dans l'Hérault. Les explications de Geneviève Nguyen, qui présidente des Restos du Cœur de l'Hérault.
Alors, c'est un week-end que nous souhaitons placer sous le signe de la solidarité, du partage et aussi du divertissement, parce que dans un contexte social difficile, l'association a plus que jamais besoin du soutien de tous, de façon à nous aider à poursuivre nos activités d'aide aux plus démunis. Donc la collecte a lieu le 8, le 9 et le 10 mars dans 74 enseignes de grands magasins du département. Et en même temps, c'est le week-end des Enfoirés, puisqu'il y a la rediffusion du grand concert des Enfoirés sur TF1 avec une émission spéciale toute la journée du 8 mars.
Une période importante pour les Restos du Cœur.
C'est une période très importante car cette collecte, l'année dernière par exemple, nous a permis de récolter 128 tonnes de marchandises qui sont distribuées tout en début de campagne d'été. Donc plus nous en récoltons, plus nous pouvons tenir longtemps dans la saison sans devoir acheter, parce que vous savez que les Restos du Cœur achètent la marchandise que nous distribuons gratuitement. Et donc cette marchandise, elle est collectée dans les grandes surfaces et il nous faut à peu près 900 bénévoles par jour pour être présent dans toutes ces grandes surfaces. Donc, je profite de ce moment d'antenne pour appeler les personnes qui souhaitent nous donner quelques heures de temps à venir bénévoler auprès des équipes dans les magasins près de chez vous.
Il y a un manque aujourd'hui de bénévoles ?
Alors, pour la collecte, globalement, ça se passe pas trop mal. Mais pour le bénévolat, je dirais, engagé et dans la durée, il y a un manque de bénévoles. Oui, nous manquons d'engagement. Nous manquons de gens qui viennent nous aider, notamment à l'entrepôt départemental à Vendargues. C'est un gros, gros, gros besoin que nous avons. Il y a des jours où nous ne pouvons pas livrer parce que nous n'avons pas de chauffeur ou nous n'avons pas de préparateur de palettes. Et c'est donc les personnes accueillis qui sont directement impactés puisque nous n'avons pas la possibilité d'amener la marchandise dans les centres de distribution.
Tout le monde est le bienvenu ou est-ce que vous avez le plus besoin ? Vous avez parlé d'un chauffeur, vous avez le plus besoin ?
Alors tout le monde est bien évidemment le bienvenu ou la bienvenue. Toutes les compétences et tous les talents sont accueillis au resto. C'est certain qu'en distribution dans les centres, on a toujours besoin d'aide. Mais le plus, c'est à l'entrepôt départemental. Là, cet été, les bénévoles qui ont travaillé tout l'hiver, qui ont travaillé dur tous les jours, vont prendre leurs vacances et nous allons avoir besoin de personnes qui acceptent de venir faire des petites préparations de palettes, qui peuvent conduire un poids lourd ou un VL. Voilà, ce sont ces profils-là dont nous avons besoin et aussi un trésorier. Si jamais quelqu'un a envie de faire un petit peu de calcul, de montage de dossiers de subvention, et pour les Restos du Cœur, ils seraient les bienvenus. Et pour ça, un seul numéro, 04 67 40 52 37.
On va revenir très vite sur la collecte. Quelles sont les denrées dont vous avez le plus besoin ?
Alors, ce sont bien évidemment des produits non périssables, puisqu'ils vont être collectés et amenés dans notre entrepôt départemental. Donc, les pâtes, le riz, l'huile, le sucre, les produits de première nécessité. Des produits d'hygiène, des produits pour bébés et des produits de soins, évidemment.
Geneviève Nguyen, présidente des Restos du Cœur de l'Hérault, était au micro de François Charbonnel pour RCF Maglone Hérault. Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, reste la plus connue des zones à défendre, ou ZAD. Près de chez nous, dans le sud Aveyron, dans la grande région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, une ZAD s'est montée à Saint-Victor-et-Melvieu, au nord de Saint-Affrique. Les militants écologiques qui se battent actuellement contre un projet de construction, un transformateur électrique de près de 5 hectares dans le cadre d'un projet éolien. Un petit village est donc monté sur place pour empêcher ce projet de voir le jour. Pour Julie, l'une des zadistes interrogées sur place par Robert Martin, le combat dépasse le cadre de la commune sud-aveyronnaise.
Parce qu'il y a le poste de transformateur, mais en fait, il n'y a pas que ça. Ce qui a aussi créé la lutte ici, c'est la convergence de tous les collectifs anti-éolien industriels, de l'Occitanie, voire même un peu plus large. Parce qu'en fait, à force d'attaquer chacun dans notre coin les projets industriels qui s'implantent partout massivement dans le nord de l'Hérault, bah, RPH, vous devez être bien au courant, dans l'Aveyron, dans le Tarn, voilà. On attaquait chacun un petit projet, puis ils en déposaient 5 autres à côté. Enfin voilà, on s'épuisait là-dessus. Ça coûte très cher financièrement. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'objectif de ce transformateur, c'était exactement de pouvoir raccorder les éoliennes industrielles. Donc on s'est dit, au lieu de se battre chacun sur notre petit coin pour pas qu'il y ait d'implantation d'éoliennes industrielles, luttons tous ensemble contre le projet de transformateur, parce que si transformateur, il n'y a pas, éoliennes ne pourront pas être accordées, donc les promoteurs arrêteront de construire des éoliennes ici.
C'est un transformateur concentrateur.
Exactement, mais le principe d'un transformateur, c'est de faire monter l'électricité en tension, en très haute tension, pour l'envoyer loin. Donc là, évidemment, l'idée de ce poste de transformateur n'est absolument pas de satisfaire les besoins de l'Aveyron, puisqu'on est déjà en surproduction d'électricité, il n'y a pas de problème en Aveyron, mais c'est vraiment de pouvoir l'envoyer très loin sur ce que RTE nomme lui-même, donc RTE Réseau de Transport d'Électricité, ce que RTE nomme lui-même comme une autoroute de l'électricité qui va en gros du Maroc jusqu'à la Norvège.
C'était Julie de la ZAD de Saint-Victor-et-Melvieu. Ce jeudi 7 février, certains occupants de la ZAD ont été délogés récemment par la gendarmerie sur ordonnance du tribunal de grande instance, mais les cabanes sont toujours là et les zadistes ont réinvesti le site dès le lendemain. Affaire à suivre, bien sûr, un sujet de nos confrères de Radio Pays des Hérauts que nous remercions. Top départ pour le festival interreligieux de musique sacrée. C'est reparti donc, un festival organisé depuis 20 ans pour que les trois religions monothéistes se parlent. Les explications de Claude Vedel, responsable de ce festival de musique sacrée.
Bel anniversaire qui va être fêté comme il se doit, avec de très belles choses. On a vraiment voulu marquer ce 20e anniversaire avec tout ce qu'on a récolter des années précédentes, c'est-à-dire de faire de ces trois week-ends des rencontres pour tous les publics Évidemment, ce sont des concerts qui sont accessibles à tout le monde. Ce n'est pas du tout prise de tête. Il n'y a pas de prosélytisme. On est là pour se rassembler. On est là pour que les trois religions monothéistes discutent entre elles, se parlent, se répondent. Et voilà, c'est ça l'essence même du festival.
C'est important de faire ça.
Je crois que dans la période que nous traversons, je crois qu'il faut aplanir les tensions. Aplanir les tensions par des mots, c'est difficile. La musique est un langage universel. Les notes de musique ne sont pas des armes. La musique n'est pas une arme. La musique est faite pour se répondre l'un à l'autre. La musique de Bach va très bien avec la musique soufie. La musique de Bernstein va très bien avec les gens de Tlemcen. Et c'est pour ça que, à travers ces moments de paix, on a des témoignages à la sortie de ces concerts, des témoignages bouleversants. Sincèrement, je dirais que même on a vu des gens au bord des larmes, tellement les artistes mettent du cœur à faire passer ce message. Et ça, c'est pour nous, c'est un grand réconfort. Et nous sommes accueillis partout d'une manière à la fois généreuse, fraternelle. Et chaque fois, le pari est gagné.
Et on espère aussi que pour cette 20e édition, le pari sera gagné.
Ce n'est pas un vœu, ce n'est pas un souhait. Pour nous, c'est une évidence.
On peut s'inscrire. Il est préférable de s'inscrire quand même.
Voilà. Il est préférable, si vous voulez, pour des raisons de facilité, de prendre les billets en ligne sur le site chrétiens et culture tout attaché .fr, chrétiens et culture au pluriel tout attaché .fr, ou bien au bureau de l'association, hein, qui est à la maison diocésaine, qui est le 04 67 641 410, 04 67 641 410, ou bien une heure avant le début de chaque concert, sachant que il y a quelquefois une queue assez importante à ce moment-là.
C'était Claude Vedel, responsable du Festival interreligieux de musique sacrée, au micro de François Charbonnel de RCF Maglonero. Vive la musique et surtout, vive la paix.
Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Et c'est avec cette information que se conclut ainsi notre magazine régional, le Carnet de Région. Merci à l'ensemble des radios qui ont participé à l'élaboration de ce magazine. Merci aux autres également pour sa diffusion. Merci à vous tous également de votre fidélité. En vous souhaitant à toutes et à tous de passer un très bon et excellent week-end. Prochain retour du Carnet de Région, c'est bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. D'ici là, prenez soin de vous. C'était le Carnet de Région.